C'est vendredi matin, toujours un pur plaisir de vous retrouver entre 6h et 10h, du lundi au vendredi dans S'appétit l'émission. C'est une matinale qu'on veut dynamique, qu'on veut aussi très 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 locale. Et on a de la chance parce qu'on a des chroniqueurs, des forces vives, celles qui se déploient dans le territoire et qui apportent vraiment un plus. On les a à l'antenne, ici, dans les studios de Radio Bulle, au 22 rue Richard, cœur de Lyon. Et tiens, en parlant de forces vives, j'en ai une qui est très vive et très active. Elle s'appelle Jean-Paul Delvaux.
Oui, c'est moi la force vive.
J'aime trop te mettre au féminin, Jean-Paul. Comment vas-tu?
Je vais très bien. Je vais très bien.
C'est vrai qu'on te retrouve en général depuis quelques saisons les mardis matins pour les bulles vertes, mais on a ce nouveau rendez-vous. Faites entrer l'artiste. Et ce mois-ci, tu as décidé de le consacrer à un comédien, metteur en scène.
Vieux copain, un grand artiste, Gilbert Pascal. Une figure historique des baladins en Agenais.
Allez,
entre autres. Bravo Gilbert. Bonsoir. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Alors Gilbert, la semaine dernière, on s'est quitté milieu des années 80. Hein, on va pas pouvoir citer toutes les pièces que tu as jouées jusque-là. Hein. Il y a eu Le chien du jardinier, Il était une fois la farce, enfin des spectacles écrits ou mis en scène par Roger.
Fin de partie.
Alors, fin de partie, c'est un peu plus tard, mon Gilbert, parce que là, pour moi, on est en 85.
Oui.
Pardon, hein, mais j'ai les programmes sous les yeux.
Je mélange les pinceaux, vas-y.
En 85, donc, tu es parti brièvement à Paris, tu reviens au Baladin en 1985, et c'est l'année de la nuit, de la première nuit du théâtre. En décembre 85, on va pas revenir sur la façon dont elle s'est créée, mais je voudrais que tu nous racontes toi un peu des souvenirs particuliers de cette fameuse première nuit du théâtre.
Bah, c'était déjà un gros challenge,
oui,
de la part de Roger et de je pense qu'il y avait Nicolas Briançon et Bernard Faux qui étaient sur le qui vivent aussi avec lui pour savoir comment ça allait s'organiser.
Oui.
Et enfin l'idée générale, quoi, c'était d'dire de commencer le samedi à 14h et de terminer le dimanche avec un petit déjeuner tardif. Et donc ça finissait vers 11h midi. Voilà. Et pendant tout ce temps, on jouait, il y avait je ne sais pas combien de pièces de théâtre qui étaient au programme, plus d'une centaine je crois.
Des lieux différents.
Et dans des lieux, il y avait des chapiteaux, il y avait le foyer rural, il y avait le baladin, il y avait la salle des pompiers, il y avait le docteur qui avait prêté son salon, enfin bon, il y avait plein de lieux. Et
donc, est-ce que tu te souviens toi d'une pièce en particulier ou d'une répétition particulière au cours de cette nuit?
De que j'ai joué?
Oui.
Oh, mais il y en a plein, hein. Pff, là, il y en a un paquet. Hein. Mais j'avais calculé que j'étais resté en fonction des pièces, parce que quand je jouais pas toute la pièce, évidemment, je courais pour aller en attaquer une autre et tout ça. Ma présence sur un plateau, je crois que je suis resté 17 heures en tout.
17 heures?
Ouais, il me semble, sur le plateau. Et je vais jouer, je sais plus.
Tu vas jouer des classiques.
10, 11, 12, 13, 14 pièces, je sais pas. Et pour la première nuit, contrairement aux autres où il y avait des reprises de pièces qu'on avait déjà jouées, donc c'était plus facile pour certaines. Là, c'était pratiquement tout des créations, quoi. Donc des textes à apprendre. Et c'était incroyable, quoi. On a commencé à répéter, donc à apprendre les textes et tout. Moi, je me rappelle que à la fin, les dernières semaines, on dormait 5 heures par nuit, quoi. Moi, je ne savais plus où j'habitais. Hein.
Mmh. Et c'était hyper rythmé, c'était hyper prolifique.
Ah, c'était génial, quoi. C'est savoir déjà si on allait arriver jusqu'au bout. Voilà.
Et donc, il y a eu une seconde en 87, mais oui, avant cette seconde, il y a eu, en 86, la création d'Aliénor d'Aquitaine.
Oui, alors ça, c'était encore un gros challenge, parce qu'on était une soixantaine sur le plateau avec des chevaux, des bottes de paille, etc., etc.
Quoi, attends, il y avait des chevaux sur scène?
Oui. Non, devant la scène.
Devant. Wow. Devant, il y avait des bottes de paille et les chevaux avaient un couloir entre le plateau où nous étions nous et les bottes de paille.
Mais vous étiez des dingues, hein, quand même au baladin.
Ah, oui, c'était on peut voir les choses comme ça effectivement. Ouais.
Rien ne vous a arrêté.
C'est ça qui est génial, c'est que quand t'es dans une compagnie, tu peux te permettre de d'ouvrir tout, quoi, de casser toutes les portes, quoi. Et puis Roger, quoi, avec son esprit de leader et de Matamor et de tout ce qu'on veut, il était capable d'avoir des idées complètement folles. Et nous, on ne demandait qu'une chose, c'était de le suivre. Hein.
Dans Aliénor d'Aquitaine, signé Benjamin Vincent, hein, qui était donc le pseudonyme de Roger, qui jouait plusieurs personnages.
Oui.
En plus, enfin, chacun d'ailleurs jouait plusieurs personnages. Tu te souviens des personnages que tu jouais dans le premier tableau
Tu jouais évidemment Guy qui jouait Henri Plantagenet et Marianne qui jouait Aliénor d'Aquitaine. Elle jouait que ça. Ils jouaient, tous les deux ne jouaient que ça, bien évidemment.
Oui.
Mais moi je jouais suivant, je ne me rappelle plus combien il y avait d'actes, mais c'était pratiquement un personnage différent à chaque acte.
Dans la scène du marché au début,
la scène
tu
du
jouais...
marché, oh, j'ai joué plus. Il y a eu deux versions. La première, j'ai joué le marchand, celui qui vend des draps ou je ne sais plus quoi. Oui, des draps, je pense, oui. Mm-hmm. Et la seconde version, j'avais dit, est-ce que je peux faire autre chose? Et puis j'avais décidé en fait de faire un peu le fou de village. Quoi.
Un simplet.
Un simplet, voilà. Mm-hmm. Donc j'ai parti à l'impro, j'avais pas de texte à part faire Donc c'était super parce que j'allais en kikiner tout le monde.
Oui, il y avait des scènes de groupe. Hein, voilà. Il faut expliquer qu'il y avait des scènes de groupe très 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 sonores, des scènes de foule.
Des scènes de foule. Il y avait une scène que Roger avait mis en place qui était assez géniale. C'était une scène. Il fallait symboliser une fontaine. Donc on était en grappe. Je ne sais pas combien de comédiens. On essayait de faire.
La fontaine.
De faire la fontaine. Et ce qu'il le faisait surtout, c'était le bruitage. Parce que tout le monde faisait. Alors évidemment, comme ça, je ne sais pas si au micro ça va le faire.
Vas-y, fais-le.
Mais on faisait tout.
Ça marche.
Voilà, on était en arrêt sur image. Ça montait les uns sur les
autres. 50. Et voilà, on était dans un tsunami.
Et c'est un tsunami un petit peu ce qui t'arrive, c'est un tourbillon à ce moment-là. Moi, j'ai une question un petit peu plus, moins professionnelle, comme Jean-Paul peut te les poser, mais moi un peu plus personnelle. Dans le premier épisode, dans cette série, je vous le rappelle les amis, tout au long de ce mois de septembre, on fait vraiment un focus dans ce fait entrer l'artiste avec toi, Gilbert Pascal. Le premier épisode, tu nous parlais tu as eu un bac avec mention, hein, tes parents t'ont payé les études, etc., t'as eu des échecs au niveau universitaire et tout. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'était un acte manqué, mais ça, c'est encore autre chose. Là, tes parents, tu trouves enfin ta voix. Et tes parents, quel regard ils posent là-dessus? Parce que j'ai l'impression que c'était des gens qui voulaient quand même des choses assez construites, assez sûres. Est-ce que ça s'est bien passé avec eux?
Alors, c'est pour essayer de faire pas trop long. Moi, je suis donc d'origine pied-noir.
Ouais.
Donc déjà, une famille pied-noir. C'est compliqué si à 18 ans, 20 ans, j'avais dit « Maman, papa, je laisse tout tomber, je veux devenir comédien, je veux monter à Paris. » Eh bien, ils m'auraient dit « Vas-y, mais démerde-toi tout seul, quoi.
Ouais. »
C'était clair, quoi. Pour eux, ça aurait été la catastrophe totale, quoi.
Ouais.
Et donc, c'était impensable. Ensuite, bon, j'ai trouvé une place pour être éducateur. Le soir même où j'ai su que j'étais embauché, je suis arrivé avec une bouteille de champagne.
Ouais.
Je l'ai posée sur la table et je leur ai dit « Voilà. J'ai trouvé du boulot, voilà. Et en sous-texte, maintenant vous arrêtez de m'emmerder avec la Banque de France. »
D'accord, ouais, parce qu'ils voulaient que tu fasses une formation
pour la Banque de France. Oui, non, je plaisante. Évidemment qu'ils n'avaient qu'une idée. Pour eux, ils étaient très angoissés de voir que je n'y arriverais pas. Et ils attendaient qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc ça a dû les soulager quand même de savoir que j'avais un boulot. Et ensuite, au bout de 5 ans, quand je leur ai dit « Bon, ben, je vais travailler dans une compagnie de comédie. » Oh là, ils ont dû se dire « Alors là, on n'en peut plus. » Là, c'est pas possible. En fait, ils m'ont même pas engueulé, ils m'ont rien dit. Je pense qu'ils étaient, on pouvait rien dire. J'étais capable de me débrouiller, de gagner ma vie.
Oui, parce que tu étais indépendant, tu gagnais pas énormément, mais tu étais autonome.
Oui, je gagnais bien ma vie à l'époque, avec en faisant un métier pas non plus des milliers et des cents, mais disons que je pouvais en vivre.
Oui.
Je pouvais complètement. Et donc. Je leur ai imposé presque le côté je vais faire du théâtre.
Et venez te voir.
Et donc, ils ont dû se dire, entre eux, ils ont dû dire il est foutu, quoi. Il est foutu, il va falloir l'amener à l'asile. Mais ils n'ont rien dit. Donc, je suis parti au tout début, je ne sais pas si... Si, ma maman est venue voir justement Des souriers des hommes, la première pièce. Elle était venue avec sa sœur, avec ma tante, et je pense que quand elle a vu la pièce, là, elle a dû se dire « Ah, d'accord !» Et je pense que ça l'a beaucoup soulagée de voir la qualité du jeu par rapport à tous les autres comédiens et tout, et elle a vu que je partais pas non plus faire le guignol en gagnant 3 francs 3 sous, et 3 sous, et puis voilà quoi. C'était déjà à moitié gagné. Et... un peu plus tard, après, elle est venue voir régulièrement les pièces. Hein. Mon père est venu un peu moins. Il est venu voir Le Chien du Jardinier. et Le Chien du Jardinier, où je jouais le prétendant, celui qui veut à tout prix épouser la comtesse, et qui arrive et qui fait « Diana, Diana !» Voilà, comme ça, à tout bout de champ, en train de lui gueuler dessus, et elle qui n'en veut pas, évidemment. Mais il lâche pas l'affaire. Et à la fin de la pièce, mon père, ma mère et des amis à eux, je les raccompagne à leur voiture, et sur le chemin, il y a l'ami de mon père qui lui dit « Dis donc, ton fils, il a une voix !» Mais il a une voix, c'est dingue, quoi. Et mon père lui répond, attends, attends. Il a fait 5 mètres, il s'est mis en face de nous et il a fait, Diana !
Ah oui.
Ah, j'étais, à la fois, j'ai trouvé ça vachement impudique et tellement émouvant. Émouvant de s'approprier le fait que ça, c'était dans les gènes et que c'était, ça venait de quelque part. C'était une façon de me dire qu'il était fier de moi. Voilà.
Il faut qu'on accélère un petit peu, mon Gilbert.
Il nous reste 5 minutes.
Ce matin. Donc, on va passer la deuxième nuit. On va passer
donc,
la troisième
voilà,
nuit.
La première nuit, le seul truc que je peux vous dire, c'est que bon, j'ai joué toutes ces pièces. Formidable. Je me suis beaucoup amusé. Puis est arrivée la fin. Et à la fin, on était tellement azimutés que moi, je suis parti rejoindre tous les autres sous le chapiteau. Et la seule question que je me posais, c'est est-ce qu'on est encore tous vivants ?
À ce point-là ?
Ah oui, oui, oui. Ouais. Pas, quand je dis vivant, c'est exagéré, mais je me dis, il y en a qui sont déjà à l'hôpital, ou va-t'en savoir, quoi. C'est pas possible humainement de faire un truc pareil, quoi.
Oui, parce que la troisième nuit avait été beaucoup plus intense, il y avait beaucoup plus de spectacles, beaucoup plus de lieux, donc c'était monté crescendo par rapport à la première.
Non, il y avait pas beaucoup, il y en avait moins.
Des spectacles ?
Mais c'était des spectacles beaucoup plus longs.
Ah, peut-être.
Oui, des spectacles beaucoup plus... La première nuit, c'était beaucoup de petites pièces.
Oui, il y avait notamment toutes les pièces de
Fedot. Non,
Fedot,
c'était la deuxième. C'était en 87.
Autant pour moi, mon Gibus.
87, mais la troisième, il y avait la grande compagnie espagnole.
Oui, la Squadra de Sevilla.
Voilà,
de
donc gros spectacle. Il y avait Aliénor.
Oui.
Il y avait les grosses pièces, genre Le Jeu de l'amour et du hasard. Il y avait beaucoup de pièces qui duraient 1h30, 2h. Donc, ça, au niveau timing, on a occupé l'espace aussi longtemps. Mais à mon avis, il devait y avoir moins de pièces qu'à la première. Enfin, peu importe. Peu importe.
On passe à 1992. Alors là, c'est une date un peu charnière, en tout cas un spectacle charnière, parce que suite à la troisième nuit du théâtre, les Baladins font faillite, enfin ont de grandes difficultés financières. Et Roger, sous l'impulsion de Philippe Candelon, Muriel, Robin, je ne sais plus exactement, décide de monter un spectacle musical, La Java des Mémoires. Oui. Quels sont, toi, tes souvenirs de cette période ?
C'est-à-dire qu'on est resté pendant plusieurs mois. Enfin, il y en a beaucoup. Là, ça a été un peu triste parce qu'il y a eu un audit. On a dit que ça ne peut pas continuer, les Baladins, etc. etc. Donc, donc, on est resté. Il y en a beaucoup qui sont partis et on est resté très peu sur place à être un peu dans les bureaux. Il y avait Catherine Delourté. Bon, moi, j'étais là. Il y avait Christine Zavant, mais qui, elle, habitait à côté, et Philippe aussi, qui était là. Et Roger a eu cette idée de dire, bon, ben, il va falloir reprendre, quoi. Parce que je suppose qu'il y avait eu un arrangement au niveau de la trésorerie, avec une possibilité de redémarrer. Donc, il fallait redémarrer avec un spectacle léger, évidemment, et avec des gens qui sont sur place. Et Roger a cette idée, un peu bizarre par rapport à tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, de monter un spectacle qu'il a appelé la Java des Mémoires, et qui parlait de la guerre de 40, depuis le Front populaire jusqu'à la Libération. Et tout ça, sans un mot, c'est-à-dire c'était que des chansons, et des chansons de la rue, que tout le monde chantait, tout le monde pouvait chanter. Et ça racontait, grâce à la chronologie des chansons, ça racontait un peu tout ce parcours. Il y avait aussi la guerre d'Espagne là-dedans, il y avait évidemment la résistance, enfin ça racontait tout ce parcours et ça a été un très beau spectacle alors que Roger, en fait, quand il a eu l'idée de monter ça, il pensait, lui, qu'on allait le jouer au théâtre de poche pendant 3 semaines et puis au revoir, quoi, hein, que ça s'arrêterait là, qu'il n'y aurait pas de suite. Et en fait, Muriel est venue le voir, il y avait Catherine Lara aussi qui est venue et à partir de là, ils ne l'ont plus lâché et on lui a dit, c'est un spectacle génial, quoi. C'est une idée formidable. Tu as en plus des comédiens, c'est pas des chanteurs, c'est des comédiens qui chantent.
Voilà.
Donc pour nous c'était important d'avoir la touche des comédiens, pas juste chanter. On vivait le truc, c'est ça qui permettait aux spectateurs de suivre l'histoire. Et là, à partir de là, ben on a fait des dates en tournée derrière, avec un vrai décor, un pont. Qui était un peu le pont, ça rappelait le pont de Hôtel du Nord dans le film. Et on était 5 Donc Philippe, Catherine, Jean-Paul, tu étais là aussi, Christine Zavant et moi, et Yves Bouquet qui était l'accordéoniste. On a fait des dates de tournée et ensuite il y a eu une audition sur Paris et tout ça s'est terminé avec le spectacle qui a été programmé au Théâtre de la Renaissance.
Par Jean-Marc Dumonté,
non.
Entre autres.
Ah oui, pardon. Non, ça c'était pour la production.
Oui.
Oui, la production, oui, il y avait Jean-Marc Dumonté, oui. Il devait y avoir Petit Loup aussi, sûrement.
La boîte de prod de Muriel.
De Muriel
qui
Robin.
Qui était coproducteur.
Mmh. Oui, voilà.
Et donc, là, tu arrives à Paris.
Et là, ben, on arrive à Paris, au Théâtre de la Renaissance, où on a joué pendant 3 mois, et puis il y aura des reprises.
Il y a une nomination en Molière, si je ne me
trompe. La nomination après,
et
l'année suivante.
Et enfin, là, c'est le teasing. Donc, la semaine prochaine, les amis... Voilà. Ces artistes, hein, quand ils s'emballent, hein, c'est difficile de les arrêter. La semaine prochaine...
Mais, oui.
Ouais. Non mais oui mais quoi.
Non mais Gilbert a
mais tu sais
beaucoup
mais,
à dire.
Mais Samia, un comédien, tu lui demandes de parler de lui mais il s'arrête plus.
Et c'est pour ça qu'on va te retrouver régulièrement à l'antenne de Radio Bulle à travers ces chroniques. Faites entrer l'artiste que vous retrouvez tous les vendredis matins à 7h45 et bien entendu les rediffusions, le podcast, c'est sur notre site internet radiobulle.net. La semaine prochaine, on retrouve Gilbert Pascal, reçu bien entendu par Jean-Paul Delvaux, et on va voilà arriver avec toi à Paris. Pour l'instant, on est à Agen, les amis, on est bien tous ensemble, et moi je vous retrouve dans un instant, juste après le top de la musique. Passez une excellente matinée.